Radio Okapi. Le journal Blaise Chindadi.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à cette édition du journal du matin dont voici les titres. Les rideaux sont tombés hier sur le 39e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Félix-Antoine Tshisekedi et Antonio Guterres se sont entretenus samedi en tête à tête. Le chef de l'État congolais a réaffirmé la nécessité de passer des appels aux actes pour le respect des engagements pris dans le cadre des mécanismes régionaux et internationaux. 16 février 2025, 16 février 2026, cela fait une année jour pour jour depuis l'occupation de la ville de Bukavu par les rebelles de l'FC M23. Les forces de sécurité de la République avaient abandonné la ville un jour avant l'arrivée des rebelles. Depuis lors, le calvaire des habitants s'accumule chaque jour. Tariq Saidi, manager international de boxe professionnelle au sein de la Fédération Congolaise de Boxe, est l'invité de ce journal. Dans un entretien accordé à Radio Okapi, il parle d'un probable combat de boxe entre Martin Bakole et Tony Yoka ici à Kinshasa. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à cette édition du journal Parler du Matin. Ce journal part d'Addis Abeba en Éthiopie où s'est ouvert samedi le 39e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a rencontré le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres. Selon la présidence congolaise, les deux personnalités ont évoqué l'excellente coopération entre la RDC et l'ONU avant d'aborder l'état de la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs, le renforcement du multilatéralisme et le rôle stratégique de la RDC en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le point avec Grace Hamzati.
Au cours de cette rencontre, le président de la République a réaffirmé l'engagement du pays dans la consolidation des efforts de paix, la nécessité de passer des exhortations aux actes afin d'assurer le respect strict du droit international et des engagements souscrits dans le cadre des mécanismes régionaux et internationaux. Le chef de l'État a également insisté sur l'urgence d'un appui technique et crédible de la MONUSCO pour garantir l'opérationnalisation du mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu en application de la résolution 2808 du Conseil de sécurité des Nations Unies. De son côté, le secrétaire général de l'ONU a assuré l'appui des Nations Unies dans la mise en œuvre de l'architecture des cessez-le-feu établie. En outre, il a salué l'entrée de la RDC au sein du Conseil de sécurité de l'ONU et sa volonté de défendre un multilatéralisme juste et efficace, une posture qui traduit les aspirations de l'Afrique à jouer un rôle central dans la gouvernance mondiale, rapporte la présidence de la République.
Je le disais tout à l'heure en titre, 16 février 2025, 16 février 2026, cela fait une année jour pour jour depuis l'occupation de la ville de Bukavu par les rebelles de l'AFC M23. Ce jour-là, la ville de Bukavu passe entre les mains des rebelles sans la moindre résistance. Les forces de sécurité de la République avaient abandonné la ville un jour avant l'arrivée des rebelles. Depuis lors, le calvaire des habitants s'accumule chaque jour. Retour sur les faits avec Jean Kassami.
Le 16 février 2025, tout Bukavu était plongé dans une psychose indescriptible, des armes abandonnées entre les mains des mineurs civils crépitaient de partout. La confusion s'est installée et la population était traumatisée. Chacun est resté terré chez soi, ne sachant pas avec exactitude d'où provenait le crépitement des balles. Nombreux habitants se rappellent de cette journée avec beaucoup d'émotion. Aujourd'hui, une année après, la situation est loin de s'améliorer. Les parties belligérantes renforcent leur position au front. Les gouvernements, tout comme les rebelles, continuent à déployer leurs forces, surtout dans la partie sud, dans les hauts plateaux de Minembwe. Les affrontements s'y déroulent sans désemparer. Les FRDC, soutenus par les Wazalendo, se battent contre les groupes armés Twirwaneho-Gumino-Android alliés à l'AFC M23-RDF dans les hauts plateaux des territoires de Fizi et Mwenga. Et c'est malgré les accords de paix signés à Washington et à Doha, lesquels les accords, la population du Sud qui vous souhaite voir contribuer au retour de la paix à l'est de la RDC. Jean Kassami, Radio Okapi.
À propos de cette occupation, la population de la ville de Bukavu garde encore frais en mémoire les événements qui se sont succédés ce jour-là dans la ville, le 16 février 2025. Nombreux continuent à dire qu'ils ne croyaient pas que Bukavu allait tomber entre les mains des rebelles au regard du dispositif sécuritaire important qui était mis en place par le gouvernement. Suivez ces propos recueillis auprès des quelques habitants de Bukavu par Jean Kassami.
C'est une journée de triste mémoire pour moi. La journée qui marque la fin de la mise en œuvre des projets de développement de la province.
Toi, était bouleversé. Nous avons vraiment un mauvais souvenir de cette journée-là.
La population est restée traumatisée. Jusqu'à présent, les gens de Bukavu vivent dans une peur constante.
Journée d'angoisse, des déplacements des populations, des rumeurs et de la paralysie des activités économiques et administratives.
Les événements qui ont précédé cette entrée ont été catastrophiques. Sans combat, l'armée régulière s'était retirée, mais ils nous ont laissé pendant 2-3 jours dans une ville sans responsable, sans sécurité. Comme la nature a horreur du vide, ce sont les petits enfants du Kansayo et des quartiers environnants qui sont tombés sur les armes et qui nous ont arrosé de bruits de balles et peut-être aussi d'assassinats.
L'entrée du 23 était vécue comme une rupture symbolique de sécurité. On ne s'y attendait pas. Personne ne pouvait y croire.
Aujourd'hui, la population de Bukavu vit miraculeusement dans une ville plongée dans une inertie total sur le plan socio-économique. Toutes les institutions financières telles que les banques et les institutions des microfinances ont fermé leurs portes quelques jours avant l'occupation de la ville par la rébellion. Le peuple est voué au chômage. Les services étatiques ne fonctionnent plus, hormis quelques sociétés et services générateurs de revenus, comme la Régie des eaux, la DGI et la DGRAD, pour ne citer que ceux-là. Mais là aussi, les employés se plaignent de non-paiement de leur salaire par les autorités de facto. Radio Kapi a promené son micro dans les rues de Bukavu pour recueillir les avis de la population. Suivez.
La situation sociale de la population s'est considérablement dégradée suite à l'absence de l'autorité de l'État. Les rebelles étant incapables d'améliorer les tissus économiques de la population, mais qui ne font que piller au jour le jour le peu de moyens économiques qui nous restent aujourd'hui.
L'économie souffre gravement à Bukavu avec la fermeture des banques. Les prix de produits de base qui ont fortement augmenté, les agents de l'État qui ne travaillent plus. Nous observons également la vente de parcelles de l'État, des maisons de l'État, la fermeture de nombreuses entreprises.
Nous ne savons pas où nous allons. Une année où on est condamné à s'adapter à la situation malgré nous.
Évidemment, on ne pouvait pas s'attendre à mieux que ça. On connaît la pratique. On a vécu la guerre de l'AFDEL, les RCD, les autres rébellions, patati patata, les M23, peut-être 1, 2, on ne sait pas, on est à combien aujourd'hui. C'est la déception totale.
On est frustré, on ne sait pas si la situation va un jour changer.
Les gens de Bukavu vivent dans une peur constante, des violences physiques, des tueries, ça et là.
Revenons ici dans la capitale. Pour faire face à l'épidémie de choléra ayant déjà entraîné 5 morts dans la prison centrale de Makala, Guillaume Ngefa, ministre d'État en charge de la justice, a ordonné samedi dans une circulaire dont une copie est parvenue à Radio Kapi, l'interdiction temporaire de toute nouvelle admission des prisonniers dans cet établissement pénitentiaire. Jude Mister Bilanda pour les détails.
Face à cette situation et afin de prévenir toute propagation de l'épidémie, il est ordonné avec effet immédiat l'interdiction temporaire de toute nouvelle admission à la prison centrale de Makala jusqu'à nouvel ordre. La suspension ou la limitation stricte des visites sous réserve du respect rigoureux de règles d'hygiène et des prescriptions sanitaires en vigueur ainsi que le renforcement immédiat des dispositifs sanitaires comprenant notamment la mise à disposition de médicaments essentiels, l'approvisionnement en produits de prévention et des désinfections et les déploiements d'équipements et de matériels médicaux appropriés, peut-on lire dans cette circulaire. Les responsables pénitentiaires, les autorités sanitaires compétentes et l'ensemble des services concernés sont tenus de veiller à l'exécution stricte de la présente circulaire et d'en assurer les suivis rigoureux, conclut la note signée par Guillaume Ngefa Atondoko Andali.
Le dossier financier opposant la société américaine Pay Service à la République démocratique du Congo risque de nuire au succès diplomatique enregistré par la RDC à Washington, souligne un communiqué de cette firme américaine parvenu la semaine dernière à Radio Okapi. Alors que Kinshasa dénonce une tentative de fraude bancaire, la firme américaine contre-attaque en justice, réclamant des dizaines de millions de dollars et impliquant de hauts fonctionnaires congolais. Le point sur cette affaire qui paralyse certains projets stratégiques avec Michel Kifindangoy.
Le litige porte sur une somme initiale de 20 millions de dollars que la société américaine Pay Service réclame à la RDC. Pour Kinshasa, le dossier est clos. Dans son communiqué du 13 janvier dernier, le ministre du portefeuille souligne qu'il s'agit d'une manœuvre frauduleuse, affirmant que Pay Service s'est prévalé indûment d'un statut bancaire pour accéder à des ressources souveraines. Pourtant, cette société a déposé une plainte fédérale aux États-Unis, réclamant désormais près de 4 milliards de dollars pour ingérence délictueuse et complot civil. Dans sa réfutation, Pay Service précise qu'elle n'était pas tenue de détenir une licence bancaire, ses investissements et activités étant purement technologiques. La firme affirme également avoir obtenu l'approbation écrite du cabinet du président Tshisekedi. Dans un communiqué parvenu la semaine dernière à Radio Okapi, Pay Service prévient que cette affaire a des conséquences directes sur la diplomatie congolaise, avec le risque d'impacter négativement le projet stratégique, comme le corridor de Lobito, bloqué à Wicklow en entendant une résolution à ce contentieux. Les régulateurs américains et britanniques ont été notifiés, transformant ces litiges à un risque de conformité majeur pour la signature de l'État congolais, conclut le communiqué de Pay Service.
Plusieurs dégâts matériels et une perte en vie humaine ont été enregistrés cette semaine en Ituri à la suite de pluies accompagnées de vents violents. Les entités touchées sont notamment les camps de pêche de Muguma, Aumba, Komanda et Mokambo. Bilan provisoire, un mort, plusieurs écoles et structures sanitaires endommagées, ainsi que des abris de déplacés détruits. Des milliers de personnes sont désormais privées d'accès aux soins de santé, à l'éducation et à un logement. La coordination provinciale de la protection civile plaide pour une assistance humanitaire urgente. Isaac Remoyope, reportage.
Les pluies accompagnées de vents violents ont repris avec plus d'intensité que prévu depuis le début du mois de février, causant d'importants dégâts matériels dans plusieurs localités de la province d'Ituri. La coordination provinciale de la protection civile déplore notamment la mort par noyade vendredi d'un élève de l'Institut technique médical d'Angoumou, surpris par un vent violent sur le lac Albert. La veille à Aumba, les toitures de plusieurs salles de classe ainsi que celles de la salle polyvalente d'un institut local ont été emportées par les vents. Des centaines d'élèves qui revenaient des congés de 3 jours se retrouvent sans salle de cours. À Komanda, situé à environ 80 km au sud de Bounia, ce sont les abris de nombreux déplacés du site de Kibongé qui ont été détruits, exposant ces familles aux intempéries. Les dégâts les plus importants sont signalés dans la chefferie de Mukambu. Plusieurs infrastructures ont perdu leur toiture, notamment l'école primaire Lungu, un établissement scolaire déplacé fonctionnant actuellement dans la cour de l'école primaire Mwangali d'Angoumou, l'école primaire Luni de Moussoua ainsi que le centre de santé de Ndaru Moussoua. Face à cette situation, la protection civile appelle le gouvernement et les partenaires humanitaires à intervenir rapidement pour assister les sinistrés et réhabiliter les infrastructures endommagées. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Restons dans la province, la réserve de faune de Okapi RFO, située à Epoulou dans le territoire de Mambasa, a franchi une étape importante dans sa gestion. Un atelier de renforcement des capacités a été organisé à l'intention des partenaires du site, notamment de Wildlife Conservation Society et Wild Conservation Global, la semaine passée. Objectif, évaluer l'efficacité actuelle de la gestion de la RFO à l'aide de l'outil IMET, utilisé pour apprécier la performance des aires protégées. Selon Arsène Sangoura, responsable du département de suivi et évaluation à la RFO, les participants ont été invités à porter un regard rétrospectif sur les avancées déjà réalisées ainsi que sur les défis à relever. On écoute Arsène Sangoura dans ses propos recueillis par Dieu merci Maindo Maneno de la radio communautaire Epoulou.
En vue des travaux qui ont été faits, nous avons remarqué qu'il y a des avancées significatives. C'est l'outil aussi pour l'apprentissage. Ça nous donne aussi à comprendre quels sont les points faibles aussi. Ce ne sont pas seulement les points forts que nous arrivons à détecter ou à découvrir, mais aussi quelles sont les opportunités manquées que nous pouvons capitaliser par la suite. Et donc, en somme, nous pouvons dire que l'état d'avancement est bon et nous pensons prendre en compte toutes les observations d'amélioration que nous venons de réaliser pendant ces travaux, de les verser dans notre plan de travail pour cette année qui commence et voir à la fin de l'année qu'est-ce qui sera le résultat obtenu après leur évaluation.
Actualité internationale.
Le ministre iranien des Affaires étrangères a quitté Téhéran dimanche 15 avril pour se rendre à Genève pour un second round des négociations avec les États-Unis sous l'égide d'Oman pour éviter des frappes américaines. L'Iran cherche à conclure un accord nucléaire avec les États-Unis apportant des bénéfices économiques aux deux parties, a déclaré dimanche un diplomate iranien.
L'invité.
Tariq Saidi, manager international de boxe professionnelle au sein de la Fédération congolaise de boxe, est notre invité. Dans cet entretien avec Vanessa Kongoroan Kongolo, il nous parle de l'organisation d'un probable combat de boxe entre Martin Bakole et Tony Yoka à Kinshasa. Suivez.
Monsieur Tariq Saidi, bonjour.
Bonjour Vanessa.
Vous êtes manager international de boxe professionnelle au sein de la Fédération congolaise de boxe.
Tout à fait.
Actuellement, sur les réseaux sociaux et partout, ça parle d'un probable combat entre Martin Bakole et Tony Yoka ici à Kinshasa. Est-ce que ce combat est-il possible d'être organisé en 2026?
Je vais essayer d'être le plus pragmatique possible. Dans un premier temps, pour répondre simple à votre question, oui, c'est possible, puisque dans la boxe, tout est possible. Mais combien de fois dans ce monde de boxe, on a pu entendre parler de combats qui au final ne se sont jamais faits? Donc, il faut toujours avoir ses réserves et se dire oui, c'est possible ici en RDC, puisque les qualités des deux boxeurs sont réunies pour qu'elles puissent s'affronter. Elles sont poids lourds toutes les deux. On parle de Martin et de Tony. Le Congo est prêt à accueillir ce combat. Maintenant, voyons voir ce que ça va donner jusqu'à la fin.
Vous avez été invité par le ministre des Sports, Didier Boudimbo. Dites-nous, quel a été l'objet de vos échanges et où en êtes-vous avec les discussions autour d'un probable combat Tony et Bakole?
Son Excellence, le ministre des Sports, Didier Boudimbo, m'a invité dans une province que j'ai découverte, le Bas-Congo, à Kassangoulou, sa ville.
Le Congo central.
Le Congo central, voilà. C'était très bien. Et on a pu échanger avec Tony Yoka, son père. Lui, il était déjà prêt, dans le sens où il a déjà exprimé des conditions, des choses. Mais comme je vous l'ai dit, il y a encore le point des management des boxeurs, qu'il ne faut pas non plus négliger. Pour l'instant, quand les boxeurs s'expriment, c'est une chose. Mais derrière, quand ils sont sous contrat, ben c'est le contrat qui parle. Et ces aspects techniques qu'il faut déjà regarder avant de pouvoir se dire oui ou non.
Vous êtes déjà entretenu avec les deux boxeurs?
Oui, je me suis entretenu aussi avec Martin, bien sûr. J'ai parlé avec Martin dès mon arrivée. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, Martin, je suis là. Il m'a dit, ah, super, Tariq. Je lui ai dit, oui. J'ai suivi les réseaux sociaux. Il m'a dit, ah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je lui ai dit, non, mais je voudrais savoir. C'est le ministre des Sports qui m'a fait cette invitation, puisque je suis le manager au sein de la fédération, appelé par aussi le général Loyoyo. Donc, à partir de là, on va essayer de travailler pour construire et voir si c'est possible. Il m'a dit, c'est super. Déjà là, c'est bien parce qu'on va partir dans une voie un peu plus logique en disant comment professionnellement ce combat pourrait se faire.
Est-ce que vous avez un calendrier préétabli pour entrer en contact avec les managers des dépugilistes?
Pour moi, oui, c'est possible. Mais maintenant, dans quel calendrier? C'est ça. Vous avez posé la bonne question, Vanessa. Quel est ce calendrier? À nous de le déterminer maintenant et d'essayer de comprendre avec les teams respectives et en continuant les discussions avec les athlètes pour savoir quel sera. Et donc ça, je pense que ça sera une annonce qui sera faite par Son Excellence le ministre des Sports.
Quelles sont les étapes à suivre pour arriver finalement à l'organisation de ces combats?
La première étape, c'est d'abord, est-ce que les boxeurs aimeraient se combattre? Il n'y a jamais un boxeur qui va dire non, je ne veux pas le combattre. Vous voyez? Donc c'est impossible qu'un des deux dise non. Ça, c'est clair. Ils se sont déjà affrontés. Martin a gagné, comment il pourrait avoir peur d'affronter Tony? Tony, il a perdu, il sait qui est Martin. Donc il a envie de prouver que ce jour-là, il n'était pas prêt. Donc tout boxeur qui perd va avoir une revanche. Maintenant, le Congo, je pense que les moyens sont mis en place, l'intérêt est présent. Je vous le dis, le calendrier, Vanessa, il faut juste regarder et le déterminer pour essayer de voir et comprendre avec ces managements anglais que les deux boxeurs ont, qu'est-ce qui est possible d'être fait ou pas.
Donc, on peut dire que la suite maintenant, ça sera un travail au niveau de l'administration et du management.
Exactement. Puisque moi, je pense que si on arrive à travailler correctement pour l'intérêt du sport, on verra ces deux grands boxeurs congolais, ici, écrire une nouvelle histoire de la boxe en RDC à travers le fait qu'ils soient poids lourds par rapport à l'histoire de Ali Foreman, deux Américains sur le sol congolais. Ça, je pense que ça sera possible.
Alors, ils vont répartir au stade Tata Raphaël ou bien ils vont changer vers le stade des Martyrs?
Non, une nouvelle histoire s'écrit dans un nouvel endroit. À l'époque, il n'y avait pas le stade des Martyrs. Maintenant, il y a le stade des Martyrs. Ça serait dommage de se priver de 80 000 places. Le stade Tata Raphaël. Laissons l'histoire de Ali Foreman à Tata Raphaël. Essayons de créer l'histoire Yoka Bakolé dans un endroit qui le mérite. Je pense le stade des Martyrs, 80 000 places. Ça donnera en plus un effet de grandeur à la RDC. Il faut se rappeler les jeux qui ont été organisés.
Les jeux de la francophonie.
Ah, vous avez vu, c'était magnifique. Donc, non, je pense que c'est vraiment un bel élément sportif qu'il faut mettre en valeur. Et je pense qu'avec un combat comme ça, il ne faut pas du tout hésiter et montrer que le public congolais sera là et ainsi de suite. Donc j'espère fortement que ça se fasse. Mais au stade où nous en sommes, Vanessa, je ne suis pas à même
de donner les dates,
les dates et de vous donner la vérité de ça, entre guillemets, parce qu'il y a tellement de discussions et cette annonce doit être faite par le ministre des Sports, pas par moi-même.
Alors, on comprend qu'il y a un travail qui doit être fait. Alors, monsieur Tariq Saïd, je vous dis merci d'avoir accepté de répondre à nos questions, tout en espérant que vous reviendrez vers nous de temps en temps pour nous donner l'évolution de ce grand travail que vous devez abattre pour arriver à organiser ces combats.
Merci beaucoup Vanessa, merci à Radio Okapi.
C'était donc notre invité Tariq Saïdi qui s'entretenait avec Vanessa Kongolo en Kongolo. Et c'est ce qui met fin à cette grande édition du journal Parler du Matin qui a connu la coordination et la supervision éditoriale de Jude Mystère Milan Dankoumar et la mise en onde était assurée des mains des maîtres par Alain Goy. Ce journal est disponible sur notre site internet www.radiocapi.net.